coqs chantent et jour paraît, tout se debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous vous amenons au 27e sommet de l'élevage qui vient de se tenir au parc des expositions de Cournot dans la banlieue de Clermont-Ferrand les 3, 4 et 5 octobre dernier.
Mesdames, Messieurs, bonjour. La SNCF, votre chef de bord à toute l'équipe Intercité, vous souhaite la bienvenue à bord du train numéro 5951, destination de Clermont-Ferrand. Et réservation obligatoire, ce train desservira les gares de Nevers, Moulins-sur-Allier, Vichy, Rayon-Châtel-Guyon et Clermont-Ferrand sont terminus.
Créé en 1992, le rendez-vous annuel de Cournot est aujourd'hui un événement économique incontournable. Avec 1510 exposants, 95 000 visiteurs, dont 4 800 visiteurs internationaux, c'est le premier salon des professionnels de l'élevage. Cette édition 2018 a battu les records, au point que les organisateurs eux-mêmes se disent satisfaits. Le vendredi dans l'après-midi, c'est-à-dire quelques heures avant la cérémonie de clôture, nous avons discuté avec Jean-François Blanc, membre du comité d'organisation de ce sommet de l'élevage.
Voilà, nous sommes une petite équipe, nous sommes 6 personnes dont je fais partie pour l'organisation de ce salon.
Bon, déjà l'endroit ici est bien pensé, vous avez vu la superficie là.
Alors, il y a 185 000 m² de surface à exploiter. Alors, effectivement, c'est important. Malgré tout, nous sommes dans un parc exposition qui, aujourd'hui, est trop petit pour nous.
Ah, c'est devenu trop petit.
C'est trop petit pour accueillir les exposants. Et c'est également trop petit pour accueillir correctement nos visiteurs, ne serait-ce que par les moyens d'accès et par les possibilités de parking que nous avons pour accueillir correctement ces visiteurs.
Alors, moi, je vais vous faire une confession, Monsieur Blanc. On m'a dit hier, si c'est à Clermont qu'on organise un tel événement, ce n'est pas par hasard, parce que c'est le cœur de l'élevage en France.
Exactement, en tout cas de l'élevage allaitant. C'est vrai qu'en étant à Clermont-Ferrand, le Puy-de-Dôme n'a pas de race emblématique, mais il est entouré de régions et de départements dans lesquels on va trouver la race limousine dans l'est de la France, la race charolaise du côté des Bourguignons, les Salers dans le sud de l'Auvergne, les Aubrac également un petit peu plus dans le sud. Donc c'est vrai que Clermont est géographiquement stratégique parce que situé au carrefour de l'ensemble de ces races.
Et on m'a dit que l'écologie du lieu aussi y est pour quelque chose.
Tout à fait, donc c'est un élevage à l'herbe. Nous, la plus-value que l'on a dans nos régions, justement, ce sont nos herbes, nos zones herbagères. Nous, on n'est pas une région dans laquelle on va faire de l'intensif à mettre les animaux dans des grandes exploitations. Nous, ce que l'on veut, c'est utiliser les zones herbagères de nos montagnes.
D'accord. Alors, comment on organise un tel événement? Parce que c'est gigantesque, là.
Il faut arriver à mettre les bons ingrédients pour que l'ensemble des représentants de la profession trouvent leur compte chez nous et choisissent d'investir, de s'investir et de faire venir l'ensemble de leur réseau.
Après la cérémonie de clôture ce soir, vous pensez déjà au prochain? Alors, je vais essayer de réfléchir au prochain avec vous. Vous vous réunissez pour dire, voilà, il faut qu'on organise le salon l'année prochaine. Alors, on commence par quoi?
Chaque année, on a une race qui est mise à l'honneur, dont on accueille le concours national. Donc chaque année, on a un planning de race pour les 2-3 ans qui vont venir. Donc, d'ores et déjà, je peux vous dire que l'année prochaine, ce sera la blonde d'Aquitaine qui sera mise à l'honneur. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a toujours un œil exercé pour voir ce qui va, mais également ce qui ne va pas, tous les points d'amélioration, de manière à ce que l'année d'après, ce soit encore plus réussi.
Et comment vous sélectionnez les exposants ?
Les exposants, on les sélectionne sur leur activité. Il faut qu'ils aient une activité qui soit en adéquation avec le monde de l'élevage. Et à partir du moment où c'est le cas, on les accueille volontiers.
Alors, moi, j'ai sollicité pour venir exposer ici. Vous avez accepté. Est-ce que je paye quelque chose?
Ah, bien sûr. Nous sommes un salon. On s'autofinance à 100%. Ça, il faut le savoir. On n'a pas de financement d'État pour réaliser notre salon. Ça veut dire que l'ensemble de ce que vous voyez ici, de ce salon, découle de l'effort financier fait par nos exposants. Donc, il est impératif pour nous d'avoir des recettes stand de la part de nos exposants.
Et je paye combien ?
Alors ça va dépendre un petit peu des prestations et la superficie que vous voulez, mais on va dire que ça va aller d'un gros millier d'euros pour un petit stand, une petite présence, à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour les stands les plus importants.
Alors, d'accord, vous m'avez sélectionné, j'ai payé, vous m'avez offert une surface. Qu'est-ce qui se passe après ?
Ah ben après, à vous de réaliser votre stand et de faire en sorte de mettre en valeur vos produits de la meilleure des façons.
Ah, c'est-à-dire décoration, tout ça, transport du matériel, tout ça me revient.
Exactement. Nous, c'est la gestion après sur place pour vous accueillir correctement, vous décharger votre matériel, faire en sorte de vous mettre les moyens techniques en place, hein, électricité, internet, téléphone, éclairage, etc. Nous, après, on vous met tout ça en place, mais charge à vous d'amener vos matériels, vos produits à présenter chez nous.
Bon, maintenant, je suis venu, j'expose, on est plusieurs. Votre travail pendant ce salon, c'est quoi ?
On n'accueille pas 81 000 mètres carrés de stands comme ça sur 185 000 mètres carrés sans qu'il y ait des petites choses à régler, hein, des petits réglages à faire. Et puis après, bah, c'est accueillir également les autorités politiques.
Comme hier avec les deux ministres.
Comme hier avec les deux ministres français, mais également le ministre turc de l'agriculture qui est venu, et puis d'autres ministres d'autres pays qui nous font l'honneur de leur présence. Et puis après, il y a également la gestion de tout ce qui est partie conférence. La gestion de tout ce qui est partie visiteurs VIP, tout un tas de points à gérer pendant les 3 jours du salon.
Sur les plus hautes montagnes d'Auvergne, le joli pays de mes amours.
Je voulais en venir là, mais vous aviez été tout seul. Et il y a ces expositions que nous on voit, il y a le matériel, c'est joli, c'est magnifique. Mais il y a aussi des conférences qui ont lieu.
Oui, tout à fait. Cette année, nous avons 67 conférences qui se seront tenues durant 3 jours. Donc c'est un programme de conférences très dense, très très dense. Alors pour ça, on a un centre de conférences équipé de 13 salles, dont un amphithéâtre. Mais alors, le centre de conférences, de la même manière que je vous expliquais tout à l'heure pour le Parc Expo, qu'il était un petit peu petit, le centre de conférences commence également à montrer ses limites. On est très sollicité pour organiser de plus en plus de conférences et on ne peut pas forcément répondre à tous.
D'un autre côté, je viens du stand international et là aussi il y a beaucoup d'activités au niveau international. Vous accueillez beaucoup de monde.
Oui, on avait prévu d'accueillir cette année aux alentours de 4500 visiteurs internationaux qui viennent majoritairement pour voir notre génétique.
C'est-à-dire que par exemple, moi je suis une délégation étrangère, je viens voir ce qui se fait de mieux, je négocie, je peux nouer des partenariats, je viens chercher des solutions à mes problèmes ici.
Exactement. Et une plus-value qu'on a apportée, c'est l'organisation de visites d'élevage. C'est-à-dire qu'on vous montre les animaux, on les fait défiler sur un ring, vous les voyez dans les travées des allées. Mais nous, ce qu'on a souhaité, c'est aller plus loin que ça et vous les montrer dans leurs exploitations, dans leurs prés.
Et c'est pour ça qu'il y a des visites de ferme.
Il y a donc des visites d'élevage qui sont organisées pour faire la promotion de ces races également chez eux, directement.
Et il y a aussi le concours. Cette année, c'est la Salers, on m'a dit.
Exactement. Cette année, la Salers. Et l'année prochaine, la Blonde d'Aquitaine.
D'accord. Alors, comment on organise un tel concours ? Je ne vous cache pas que si on me donne des vaches et on me dit de choisir la meilleure, je ne pourrais pas.
Alors, moi non plus. Je ne vous cache pas. Hein. C'est au syndicat de race, eux-mêmes, d'organiser leur concours, de recruter leurs animaux et de faire en sorte d'en faire la meilleure sélection. On s'appuie sur eux. Hein. Ce n'est pas nous qui faisons la sélection. On laisse aux vrais spécialistes de la race le soin de le faire pour nous.
Alors, Monsieur Blanc, une dernière question. Tout au long de notre interview, à chaque fois que je parlais d'un volet, vous me dites que l'espace commence à manquer. Ça veut dire que d'année en année, votre salon progresse, d'année en année, en renommée, en savoir-faire et tout ça. Et la demande est telle que vous avez du mal à suivre.
Tout à fait. Là, on a la chance d'avoir quasiment connu sur 27 éditions, 27 progressions, que ce soit en nombre de visiteurs ou en nombre d'exposants. Chaque année, on progresse. C'est toujours notre objectif. Il faut toujours avoir l'objectif de progresser. Quand on ne progresse plus, on végète. Et quand on végète, c'est jamais une bonne chose.
Ça veut dire qu'après la clôture, vous vous réunissez pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est à améliorer pour la prochaine fois.
Exactement. Toujours le souci de l'amélioration, toujours le souci de faire mieux.
Moi, je veux vous remercier parce que je sais que vous êtes hyper occupé, mais vous avez accepté de venir me voir.
Ah ben, c'est toujours avec plaisir, évidemment.
Merci.
Chante, chante ma musette, la chanson de mes plus beaux jours.
À présent, un autre temps fort de ce sommet de l'élevage, le concours des animaux. Cette année, c'est la race bovine Salers qui est à l'honneur à Cournon, avec plus de 380 animaux présents au sommet. Il faut traverser tout le parc des expositions pour rejoindre le hall 1, où se tient cette importante affaire. Et il faut patienter pour être reçu par Bruno Faure, directeur du Herdbook Salers et du groupe Salers Evolution. Et bien évidemment, cet entretien commence par les qualités de cette race Salers.
Alors la race Salers, c'est une race qui est originaire du Massif Central et plus particulièrement d'Auvergne, et si je vais un peu plus finement, du département du Cantal et du Puy-de-Dôme. Alors c'est une race qui à l'origine était une race mixte, parce qu'elle était utilisée à la fois pour la production de lait, en vue de la fabrication fromagère, mais en même temps elle était capable de produire un veau lourd, un veau de 300 kg, donc elle produisait 3000 kg de lait plus un veau de 300 kg.
Un veau de 300 kg.
Voilà. Uniquement en pouvant le nourrir avec son lait. Dans les années 60-70, la politique agricole a fait qu'en France et en Europe, on a demandé aux éleveurs de se spécialiser, soit en viande ou soit en lait.
On ne peut pas faire les deux.
Voilà, c'était la spécialisation, c'était le productivisme, il fallait produire beaucoup, donc il fallait qu'une laitière produise que du lait et beaucoup de lait, qu'une vache à viande, beaucoup de viande et que de la viande. Donc la Salers, on est resté dans cette idée de pouvoir faire les deux, jusqu'au début des années 80. Et à partir de 81, on a eu la première inscription au Herdbook allaitant, donc c'est-à-dire pour la production de viande. Alors aujourd'hui, nous avons 223 000 vaches en France. Il en reste simplement 4 000 qui sont traites pour faire la production fromagère et la production d'un veau. Aujourd'hui, on est quasiment tout allaitante.
C'est quoi le Herdbook ?
Alors le Herdbook, c'est l'association des éleveurs. C'est une association d'éleveurs qui regroupe 400 éleveurs où on enregistre la généalogie des animaux. On veut conserver la race telle qu'elle est, enfin avec son potentiel génétique. Et puis on demande à nos éleveurs d'enregistrer tout un tas de données sur les animaux. Les données de production pour ceux qui traient, les volumes traits, pour ceux qui font de la viande, la croissance. On note les animaux, on les mesure, etc. C'est en fait les éleveurs qui conservent la génétique Salers.
D'accord. Donc moi quand je regarde cette vache, déjà... Le taureau, il est grand.
Oui.
Et vous me dites qu'il y a la production du lait en plus.
Alors c'était à l'origine. Mais vous avez raison de dire que le taureau est grand, puisque la Salers est une race rustique de grand format.
Ah, c'est une... À l'origine déjà, c'était de grand format.
C'était une race rustique de grand format parce qu'elle est originaire du Cantal, ce sont des terrains volcaniques. Et les terrains volcaniques, souvent, ce sont des terrains riches, où l'herbe pousse facilement. Où vous avez de l'herbe de qualité. Et donc, nous avons une vache qui a pu se développer parce qu'elle pouvait se nourrir avec une herbe de très bonne qualité. Donc, voilà pourquoi elle est grande. Et puis, nous sommes tournés sur l'allaitant. Donc, depuis 35 ans, nous améliorons la conformation de l'animal. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur la viande.
C'est quoi la conformation de l'animal ?
C'est le volume de muscles et le volume de viande que vous allez avoir sur la carcasse.
L'un des temps forts de ce sommet de l'élevage, c'est le concours animal. Et cette année, c'est la Salers. Alors, comment on organise un tel concours ?
Comment on l'organise ? Alors déjà, on essaie de mobiliser les éleveurs. C'est une symbiose entre les intérêts individuels des éleveurs et l'intérêt collectif, celui de la race, de la promouvoir. Alors, on écrit aux éleveurs pour leur demander s'ils souhaitent venir. Parce que l'éleveur qui vient à Cournon, il faut venir 4 jours. Les animaux arrivent le mardi. Il reste le mercredi, le jeudi, le vendredi. Donc il faut que l'éleveur puisse prendre le temps de venir. Et puis il y a toute la préparation de l'animal. Donc on écrit à tout le monde en disant « Nous allons faire ce concours de telle date à telle date. Est-ce que vous êtes intéressé ?» Donc les éleveurs nous écrivent « Oui, je suis intéressé pour présenter un taureau de 5 ans, un taureau de 18 mois, un taureau d'un an, une vache de 3 ans, etc. » Et ensuite, lorsque nous avons l'ensemble des inscriptions, nous regardons comment nous pouvons nous organiser dans la place. Exemple, aujourd'hui, nous avions 628 animaux d'inscrits, de préinscrits, alors que schématiquement, nous avions 400 places.
Dans ce hall-là, vous avez 400 places.
Voilà, nous avons été obligés de prendre des mesures pour dire à des éleveurs, « Bien écoutez, vous vouliez amener votre jeune femelle d'un an, vous ne pouvez pas l'amener parce que nous n'exposerons pas cette catégorie. »
Ça veut dire que pour l'éleveur, il faut qu'il puisse abandonner sa ferme pendant 4 jours pour être là. Il faut qu'il puisse préparer son animal et toute une logistique pour l'amener ici parce que quand même un taureau, ça se déplace pas comme ça.
Tout à fait, il y a toute une organisation et puis l'éleveur en lui-même, de son côté, lui, il va falloir qu'il organise son séjour-là, qu'il trouve l'hôtel, qu'il ait la restauration, enfin, etc. Il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser au niveau de l'élevage et c'est un peu pour ça que tous les éleveurs n'ont pas la possibilité de venir sur les concours parce qu'il faut laisser sa ferme seule pendant 4 jours ou 5 jours. Vous avez des exploitants qui viennent du nord de la France, donc ils ont déjà une demi-journée de transport à l'aller et au retour. Donc en plus des 4 jours où ils sont là, il faut encore rajouter une journée de transport. Donc vous voyez, ça demande véritablement une motivation et une capacité de l'éleveur à pouvoir venir faire le concours.
Alors, les 400 que vous avez sélectionnés arrivent ici le mardi. Alors, comment on fait pour sélectionner la meilleure vache, le meilleur taureau ?
Alors, c'est par rapport aux orientations de la race. Ce qu'on recherche, nous, c'est l'autonomie de l'animal. Donc, on va rechercher les qualités maternelles. Qu'est-ce qu'on entend par qualité maternelle ? La facilité de vêlage. La salaire, c'est 99% de vêlage facile, c'est-à-dire sans intervention de l'homme. La vache vêle toute seule. Donc là, on va regarder son bassin, la forme de son bassin. Plus il sera large, plus il sera carré, plus facile sera le vêlage. On va regarder la mamelle, puisque l'autonomie veut que si le veau naît facilement, il se lève facilement et qu'il aille téter tout seul. De manière à ce qu'il n'y ait pas besoin qu'il y ait l'éleveur à côté pour s'assurer que le veau est tété. Le veau doit être capable de le faire tout seul. On va regarder la rusticité. Qu'est-ce qui est intéressant ? C'est une race qui vient de montagne. Donc on va regarder effectivement ses aplombs. Il faut qu'il y ait des aplombs solides.
C'est quoi les aplombs ?
Les pattes de l'animal, puisque en montagne, les animaux doivent marcher pour aller chercher leur alimentation sur des pentes escarpées. Donc il faut qu'elles soient solides sur leurs pattes. Ce sont des animaux qui mangent essentiellement de l'herbe. En zone de montagne, on n'a pas capacité à faire des céréales ou à faire du maïs. Donc on a besoin d'avoir des animaux qui sont profonds.
C'est quoi profond ?
C'est-à-dire qu'il y ait une panse large, un ventre large, parce que c'est la capacité d'ingestion. Ils doivent manger beaucoup d'herbes pour pouvoir se nourrir. Donc plus la panse est grosse, plus le ventre de l'animal est gros, plus il pourra manger d'herbe et meilleur c'est. Et puis on regarde la rectitude, le dos de l'animal, où on souhaite un dos rectiligne.
Alors, c'est tout droit.
Voilà, tout droit. Pourquoi ? Parce que si votre dos est droit, c'est que l'animal a du muscle. Et à cet endroit-là, qu'est-ce que l'on retrouve comme morceau de viande ? On retrouve la côte de bœuf, on retrouve l'entrecôte, on retrouve le filet, le faux filet, c'est-à-dire les meilleurs morceaux de l'animal. Et s'il a du muscle, il arrivera à se commercialiser beaucoup mieux. Et c'est surtout, s'il a du muscle, c'est un signe de bon vieillissement de l'animal.
Je ne vous cache pas que moi, j'ai vu sur les stands les animaux défiler.
Oui.
Mais je me demandais selon quels critères vous les sélectionnez.
Les juges, ce sont des experts. Et puis, ils prennent en compte l'ensemble de ces critères qui donnent en fait une note de synthèse. Et ils considèrent que cet animal-là est premier. Voilà.
Et pour les taureaux ?
Et pour les taureaux, ce sont les mêmes critères. Ce sont les mêmes critères puisque n'oublions pas qu'un veau, c'est la moitié du potentiel génétique du taureau et la moitié du potentiel génétique de la mère. Donc sur le taureau, on va regarder le bassin, on va regarder les aplombs, on va regarder la ligne du dessus, hein, un dos droit, on va regarder la panse, la capacité à manger des fourrages grossiers. Ce sont exactement les mêmes critères.
Mais j'ai vu mesurer des choses au niveau de la tête, c'est quoi ?
Bien évidemment, on regarde la tête, on va regarder le mufle de l'animal. Plus le front est large, si le front est large, ça donnera un animal qui sera large globalement. Et puis après, la dernière petite touche, c'est l'harmonie de l'animal. Un animal de concours, c'est un concours de beauté aussi. Il faut que l'animal présente et il faut que la tête soit en harmonie avec le corps.
D'accord. Maintenant, le concours a eu lieu. Moi, mon taureau ou ma vache a été sélectionné. Qu'est-ce que ça implique pour moi, éleveur ?
Ah bah, ça vous implique une très bonne promotion. C'est-à-dire que lorsque vous avez un animal qui a gagné le concours, lorsque votre animal est exposé, lorsque vous avez 100 000 visiteurs qui viennent au concours au sommet de l'élevage, qui vont passer devant votre animal, ils vont voir votre nom, le nom de l'élevage, vous pouvez discuter avec eux et incontestablement, c'est une très belle promotion pour vous et une très belle promotion qui pourra générer des ventes.
Ah, ça veut dire que par exemple, la semence de mon taureau, pour ce qui est des croisements et tout ça, de la génétique, du coup vaut de l'or.
Vaut de l'or, alors peut-être pas de l'or, mais vaut quelque chose parce que beaucoup d'éleveurs viendront vous demander, alors non pas que de la semence, viendront vous demander d'acheter des jeunes femelles, viendront vous demander d'acheter des vaches dans votre élevage, et donc ça vous permettra de vendre d'une part et de peut-être valoriser un peu mieux parce que vous avez gagné des prix au plus grand concours de la race.
Donc dans un premier temps, avoir un stand ici pour moi, je suis à la bonne place, et si en plus je suis primé, là c'est le jackpot.
Alors c'est ce que recherchent tous les éleveurs. Voilà, la difficulté c'est d'être primé, mais il ne faut pas être exclusif, hein, même des animaux qui ne sont pas primés, des affaires se font aussi, ce qui est important c'est d'être ici.
Donc en fait, il y a les visiteurs français qui viennent, il y a les visiteurs internationaux, et tout ce monde-là gravite dans ce que vous appelez un marché.
Voilà, tout à fait. C'est, j'allais dire, c'est une place de marché. Une place de marché, c'est quoi? Ben, pour moi, c'est une place où, sur un petit espace, vous avez à la fois des vendeurs et vous avez à la fois des acheteurs.
D'accord, je vous remercie.
Merci, à bientôt.
Sous le ciel gris de l'Auvergne, de mon amour, on a sonné le glas.
Notre dernière étape à Cournon, c'est le club international. Cette année, 4800 visiteurs internationaux ont visité le sommet de l'élevage. Parmi eux, ceux qui découvraient l'événement pour la première fois, c'est-à-dire Éthiopiens, Équatoriens, Vietnamiens, pour ne citer que. Pays invité d'honneur, il y avait le ministre et le vice-ministre de l'agriculture turque, accompagnés par une délégation de 150 professionnels turcs. Autre visite officielle, le salon a accueilli l'ambassadrice de Zambie, le ministre de l'élevage de l'Ouganda, le secrétaire d'État à l'agriculture de Roumanie. Le témoignage de Benoît Delaloy, responsable du club international.
Le responsable international du sommet de l'élevage a pour mission de développer la notoriété du salon à l'étranger, avec deux missions principales, faire venir des exposants étrangers, exposant de machines agricoles, de services, d'équipements pour l'élevage. Et la deuxième mission, faire venir des visiteurs étrangers, donc si possible des professionnels de l'élevage, des investisseurs, des importateurs de génétique, des éleveurs, tout responsable professionnel de l'élevage, donc de différents pays. Nous attirons donc près de 100 000 personnes hein, sur 3 jours. Fort de ce constat, nous souhaitons mettre tout en œuvre pour que le visiteur international qui a fait l'effort de venir jusqu'à nous soit bien accueilli. Donc pour cela, effectivement, on a tout un service de navettes gratuites, d'entrée gratuite au salon. Et dès qu'il franchit les portes, on a ce qu'on appelle le club international dans le prestigieux hall du Zénith d'Auvergne, qui est une grande salle de spectacle. C'est un espace de 800 mètres carrés où le visiteur international trouvera des interprètes, trouvera des personnes qui vont l'aiguiller et pourront lui proposer des visites guidées du salon, l'organisation de rendez-vous avec les exposants, des bornes internet, une salle de prière pour nos amis musulmans, une salle de réunion, tout un panel de services pour rendre le séjour de notre visiteur international agréable et utile.
C'est pour ça qu'on entend toutes les langues ici.
Exactement, les gens donc viennent du monde entier, donc l'anglais, l'espagnol, le vietnamien, nous avions aussi des éthiopiens pour la première fois cette année, des équatoriens, des sud-africains, des mongols. L'Afrique est également bien présente, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal, le Cameroun, et puis bien sûr, la majorité de nos visiteurs restent quand même européens.
Et la Turquie ?
La Turquie, sans oublier, tout à fait, qui était notre pays invité d'honneur cette année. Nous avions donc l'honneur de recevoir le ministre de l'Agriculture, son vice-ministre également, et 150 professionnels turcs de la filière élevage qui se sont rendus à Cournon cette année.
Mais pourquoi vouloir projeter le sommet à l'international ?
Parce que nous sommes conscients que nous disposons ici dans notre région du Grand Massif Central d'un important réservoir génétique. Nous avons un savoir-faire donc centenaire en termes d'élevage, de sélection animale, avec des races qui sont mondialement connues comme la charolaise, la limousine, l'aubrac, la salaire, qui sont déjà implantées dans plus de 80 pays dans le monde. Donc on veut faire reconnaître cette excellence de l'élevage français, donc on souhaite que nos amis étrangers, éleveurs, viennent ici pour acheter notre génétique. Et puis, au-delà de la génétique, il y a tous les services, tous les équipements, des entreprises françaises, mais pas seulement, puisqu'aujourd'hui, le sommet de l'élevage, nous avons 1500 exposants, dont 300 sociétés étrangères de 32 pays. Donc en fait, c'est un immense supermarché de l'agriculture européenne, à minima, où l'éleveur investisseur étranger trouvera toutes les solutions au développement de ses projets et de ses investissements.
Mais le printemps arrive comme un vrai don du ciel, douce chaleur qu'avive un rayon de soleil.
Il y a aussi des visites de ferme, m'a-t-on dit.
Nous sommes ici salon professionnel et nous avons la chance d'être au cœur du bassin de production. Donc il est très facile pour nous, voilà, en car, de faire une demi-heure, une heure de car et d'être tout de suite dans la campagne et de pouvoir visiter des exploitations, les abattoirs, des centres de recherche, des centres d'insémination, des fromageries, poser des questions aux éleveurs, voir les bâtiments, voir les animaux, l'alimentation, d'aller dans la campagne et découvrir l'élevage français.
Alors il y a un atout qu'on m'a cité, que j'ai découvert hier, on m'a dit... À Cournot, ce qui est bien, c'est que l'élevage, c'est à l'herbe.
Le Massif central, il faut savoir, c'est une zone de moyenne montagne et d'herbage. Donc tout notre élevage est basé sur cette composante importante, donc l'herbe. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver au sommet de l'élevage une très forte présence des bovins, des ovins et des chevaux. C'est vrai que les productions porcines et avicoles sont peu représentées, nous en avons, mais qui restent très régionales. Alors que les filières bovines, ovines et équines, là, sont représentées par, notamment par les exposants qui viennent de l'Europe entière, qui reconnaissent encore une fois la prépondérance de l'élevage herbivore du Massif central. Donc ça, c'est vraiment notre particularité. Oui.
À l'herbe, ça veut dire que, par exemple, moi, si je suis d'un pays sahélé, je peux refaire ça chez moi.
Tout à fait. Alors après, bon, il y a des races plus ou moins adaptées à différentes conditions internationales, donc selon la typologie du climat, du sol, etc. Mais nous avons une telle diversité de races, de génétique et de savoir-faire en France qu'encore une fois, tout le monde peut trouver ce qu'il cherche, que ce soit en race pure ou peut-être dans le type de pays sahélien, peut-être en croisement, pour lier la performance des races françaises avec la rusticité des races locales, parce qu'il ne faut pas non plus essayer à faire uniquement du copier-coller, et ça ne marche pas forcément, il faut vraiment les conditions idéales, mais sinon voilà, le croisement fonctionne très très bien. Donc encore une fois, voilà, il y a une telle diversité que tout le monde peut trouver chaussure à son pied.
L'idée, c'est d'amener des professionnels à se rencontrer, y compris les professionnels français entre eux. En fait, c'est une rencontre du professionnel de l'élevage que vous organisez.
Exactement. Et on a aussi coutume de dire que le sommet de l'élevage est organisé par les éleveurs, pour les éleveurs. Il faut savoir que notre salon est la propriété d'une société privée détenue par des éleveurs. Le président du sommet est un éleveur et tous nos administrateurs sont éleveurs. Et effectivement, donc nous sommes un rendez-vous d'affaires, donc entre Français entre eux, entre Français étrangers, entre étrangers eux-mêmes, parce que je sais qu'il se fait aussi du business entre éleveurs européens ou internationaux entre eux, qui se rencontrent au sommet de l'élevage. Donc voilà, c'est un rendez-vous d'affaires, un rendez-vous économique et un rendez-vous aussi social, parce que les éleveurs, eh bien, c'est le rendez-vous de l'année pour nos éleveurs qui travaillent toute l'année sur l'exploitation et qui, voilà, pour eux, c'est le sommet de l'élevage au mois d'octobre, c'est le rendez-vous incontournable qu'ils cochent chaque année sur leur calendrier. C'est là qu'ils retrouvent tous leurs amis, qu'ils font la fête, qu'ils font un petit peu de compétition lorsqu'ils se mesurent au niveau des concours animaux, mais toujours dans la bonne humeur, la bonne ambiance. Et c'est ça aussi qui fait la particularité de notre salon par rapport à d'autres. C'est un salon qui est professionnel mais convivial.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Nous étions au 27e sommet de l'élevage qui s'est tenu au parc des expositions de Cournot dans la banlieue de Clermont-Ferrand les 3, 4 et 5 octobre dernier. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Mouchinski, au micro Sayouba Traoré. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site www.rfi.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante.
Mesdames et messieurs, le départ de notre train, merci de la réservation obligatoire à destination de Paris-Bercy est imminent. Merci de s'agir de la fermeture automatique des portes.
Avant de se quitter, toujours cette bonne nouvelle. Vous voulez écouter Radio France Internationale sur votre téléphone mobile, c'est désormais très simple. Il vous suffit de télécharger l'application RFI Pure Radio. Vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.
Mesdames, messieurs, le départ de notre train interstitial, réservation obligatoire à destination de Paris-Bercy est imminent. Merci de s'agir de la fermeture automatique des portes. Nous vous rappelons que notre train desservira uniquement les gares d'Orient, Châtel-Guyon, Vichy, Moulins-sur-Allier, Nevers et Paris-Bercy.